ce matin dans sa maison. Vous qui êtes ici avec nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a certains qui sont ici peut-être pour la première fois. Vous ne venez pas habituellement ici. Et aussi ceux qui sont toujours avec nous. Il y a ceux qui sont venus pour être avec nous pendant ce week-end. Nous avons eu une conférence pastorale merveilleuse et il y a certains pasteurs ou prédicateurs qui sont restés encore avec nous et ils sont encore au milieu de nous. Lorsqu'on se rappelle de lundi, mardi, mercredi, et quand on regarde aujourd'hui, on se dit que beaucoup de choses ne sont pas passées. Mais lorsqu'on considère attentivement, on se dit que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Il y a deux groupes que j'aimerais souhaiter la bienvenue. Il y a un groupe de dames qui vient de Pietermaritzburg pour être avec nous ici ce week-end. Nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a M. Kirsten et son épouse qui sont venus avec un groupe de Lesotho et ils travaillent parmi les enfants et leur organisation s'appelle Beautiful Gate. Ils sont venus aussi avec certaines personnes aussi de l'administration, de l'organisation, et certains d'entre eux sont ici pour la première fois. Donc ils sont assis vers l'arrière. Et merci beaucoup d'être venus pour être avec nous. C'est aussi un grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un culte de fiançailles. Nous sommes très reconnaissants. Nous voyons les familles ici. Monsieur Newland, c'est ici. Et la famille de la dame aussi sont ici. Nous sommes très reconnaissants que de vous avoir parmi nous. Et de la famille Astika, il y a ceux qui ne sont pas avec nous, mais il y a aussi la famille en Italie. Qui sont connectés et qui sont aussi suivent avec nous à travers le live stream. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes reconnaissants que vous soyez avec nous et tous ceux qui sont connectés pour être avec nous partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. beaucoup sont sortis pour prêcher à différents endroits. Et aujourd'hui, c'est la chorale des jeunes qui va chanter pour nous. Avant qu'ils ne viennent devant pour chanter, nous allons demander à M. Peter Dahl de venir ouvrir le culte par la prière. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci beaucoup pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Père, quel privilège c'est de pouvoir être ici dans ta maison et être assis à tes pieds comme Marie l'a fait dans la Bible. Seigneur, nous te prions, nous te demandons afin que ta parole trouve une place dans nos cœurs de manière spéciale, particulière. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui peuvent être ici et peu importe aussi où ils sont et sont connectés. Nous te demandons Seigneur que tu fasses en sorte que ce jour soit un jour béni pour chacun d'entre nous. Et nous te prions afin que chacun d'entre nous ici puisse ressentir ta présence à travers tout ce qui est dit et fait. Père, nous te le demandons en ton nom et pour ton honneur et ta gloire. Amen. Nous allons demander à la chorale des jeunes de venir devant pour chanter, après quoi nous allons tout remettre aux serviteurs du Seigneur. Le chant en africain dit que Dieu seul et Dieu seul doit être. bien, chers frères et sœurs et amis, nous sommes toujours en train d'expérimenter un temps merveilleux. On n'a pas encore retrouvé notre niveau depuis qu'on a été pendant la conférence pastorale où on était sur le sommet de la montagne. Et encore, les jeunes gens qui nous amènent encore au sommet ou au zénith, vraiment d'une grande joie. J'aimerais lire un passage. D'une occasion qui a eu lieu. D'une situation qui a eu lieu sur la mer. C'était un bateau ou une barque qui était sur la mer et Jésus était avec eux. Non, ce n'est pas l'occasion dont peut-être vous avez déjà en pensé lorsque les disciples étaient à la barque et Jésus était en train de dormir. Non, c'est une autre occasion. Parce que lorsque je pensais à ces fiançailles merveilleuses entre John-Pierre et Laura, c'était pour moi comme si on était vraiment au sommet ou au pic, sommet d'une vague. Et ça m'a amené à penser que la vie est comme un voyage sur l'océan où on trouve des fois les temps de grande joie. Il y a aussi les moments des grandes tempêtes. Et même si aujourd'hui c'est un jour merveilleux, les jours des orages ou des tempêtes viendront pendant que nous sommes sur cette marche de la foi. Les temps ou les moments d'orage ou de tempête vont tous nous atteindre. Mais j'ai un principe que lorsque je rencontre une tempête, et je prie toujours et je demande au Seigneur, est-ce que tout va bien entre moi et toi? Et je le fais comme une routine. Ou encore, est-ce que suis-je responsable de la tempête qui m'enveloppe ou que j'ai rencontrée? Je me souviens d'un témoignage de Baba Ngoubane. Je me souviens, je l'avais entendu pendant une réunion qu'il avait prise il y a à peu près 30 ans en arrière. Et cela m'est resté, c'est resté avec moi sur ce principe. Lorsque tu rencontres les difficultés, examine-toi d'abord toi-même et demande au Seigneur, « Seigneur, est-ce que tout est en ordre entre toi et moi ?» montre-moi, Seigneur, s'il te plaît, s'il y a quelque chose dans ma vie qui t'attriste, qui a peut-être tiré cette tempête, cet orage dans ma vie. Il a raconté l'histoire lorsque un jour il allait avec sa famille à Chouchoué. Et là-bas, il y a une rivière, je crois que c'était une rivière avec de l'eau chaude. Et il a marché dans la rivière. Et pendant qu'il marchait, alors il a marché sur un morceau de verre. Il ne l'a pas senti parce que lorsqu'on marche dans l'eau et qu'on marche sur, par exemple, un morceau de verre, on ne le sent pas vraiment. Et il y a un danger que spirituellement on peut marcher sur un morceau de verre et qu'on ne le sente pas. Mais lorsqu'il est sorti de la rivière, il a tout de suite ressenti la douleur. Il s'est assis et en effet, il était en train de saigner de son pied. Et tout était, okay, c'était clair, il s'était blessé. Et il a regardé rapidement, il ne pouvait voir, il n'a pas pu voir un morceau de verre. Et comme ça, il est rentré ici à la mission. Mais la douleur ne faisait que s'empirer, devenait sévère. Et il s'est assis, et il a regardé, il a commencé à toucher un peu plus sa blessure. C'était douloureux. Ce n'est pas toujours facile, évident, de trouver ce qui ne va pas, ce qui est là entre moi et le Seigneur. Mais il ne pouvait rien trouver. Et il s'est dit, ah, peut-être c'est juste, je me suis juste fait mal. Il a continué à marcher. Et le lendemain et les jours qui ont suivi, alors il avait plus mal. Et il a décidé de s'asseoir encore et de regarder, d'examiner. À ce moment-là, vous devez savoir que la plaie était déjà très sensible. Déjà sensible parce que la plaie devient plus sensible après quelques jours. Il a commencé à gratter autour. Et en effet, il a trouvé un morceau de verre. C'est vraiment un cauchemar pour un médecin de trouver un morceau de verre dans la blessure parce que le verre est transparent et c'est pas toujours facile de trouver ça dans la chair. Et même avec une radio, on peut pas facilement, on peut pas trouver ça. Mais il a gratté, il allait à l'endroit le plus douloureux et comme ça il a trouvé où le morceau de verre était. Et il s'est exclamé, il a dit ouch, il a dit c'est mieux, c'est maintenant. Il s'est senti mieux. Et il a continué à marcher. Mais la douleur n'avait pas disparu. Il a encore cherché, fouillé dans la plaie, mais la douleur était toujours là. Et c'est comme ça, il a dit, il va simplement laisser la chose comme ça. C'était peut-être que le verre a coupé une partie vraiment, une partie importante. Et c'est comme ça qu'après 2 semaines, l'endroit a commencé à s'infecter, à être sceptique. Et c'est devenu comme un abcès. C'est devenu un abcès. Et c'est devenu un abcès. Et quand l'abcès s'est percé, a éclaté, alors le puits est sorti. Et avec ce puits-là, il y a eu des morceaux de verre qui sont sortis avec. Et 30 ans en arrière, dans son message, il a dit, en théorie, c'est facile de demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas entre moi et toi. Mais à la pratique, c'est souvent très difficile. Nous devons endurer la douleur. Et quelque part, quelque chose va faire en sorte que cet abcès-là éclate pour vraiment aller à la racine de ce problème qui est entre moi et le Seigneur. Mes amis, ce message m'avait richement béni. Parce que mon expérience dans la vie chrétienne, et c'est pas dans ma vie chrétienne, mon expérience n'est pas toujours facile de trouver ce qui se passe. Mais nous devons toujours être prêts lorsque nous sommes dans la tempête ou on rencontre la tempête, nous devons toujours demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tout va bien entre toi et moi? Avant d'aller plus loin, nous allons commencer d'abord avec les fiançailles. Est-ce que je peux maintenant demander à Laura et John-Pierre de venir devant? Mes chers amis, aujourd'hui vous me voyez, je suis entre les deux. Voici ce que le Seigneur nous enseignait dans le réveil. Et c'est de cette manière, et c'est comme ça qu'on le fait dans le réveil. Ça n'a pas été pensé comme ça par un homme ou par les hommes, c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé. Ces deux n'ont jamais eu un contact en secret avec l'un et l'autre. Ils n'ont jamais échangé des messages SMS ou WhatsApp ou téléphone. L'un des deux a dû lutter avec le Seigneur, rechercher le Seigneur pour savoir si réellement c'était Dieu qui les conduisait dans le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui je me tiens entre eux. Il arrivera le jour de leur mariage où je me tiendrai plus entre les deux. Mais jusqu'au jour du mariage, c'est toujours une séparation totale. Et Jean-Pierre croit que le Seigneur lui a parlé de se marier à Laura. Et Laura, de son côté aussi, elle croit que Dieu l'a confirmé, que c'est la volonté de Dieu. Nous allons donner maintenant, on va donner l'alliance. Prions ensemble. Seigneur, voici ici tes enfants. Tu les as fait traverser à travers beaucoup de tempêtes et jusqu'en ce jour. Ils disent que c'est toi, et ils affirment que c'est toi qui les as conduits de se fiancer. Et comme tu les as gardés purs jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, accorde-leur la grâce de demeurer purs jusqu'au jour de leur mariage. Et qu'ils continuent à expérimenter ta présence et continue à aller de l'avant, parce que ce n'est pas vraiment la chose ultime dans la vie, mais entendre ta voix et marcher avec toi, c'est vraiment la chose ultime, la chose au-dessus de tout. S'il te plaît, va avec eux et bénis-les et continue à te révéler à eux. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Donc, vous voyez, c'est un jour de grande joie pour nous tous. Lisons le passage dont j'ai parlé dans Actes au chapitre 27. Et c'est ici l'histoire de Paul, son dernier voyage à Rome. Mes amis, je ne veux pas sortir la parole de Dieu de son contexte. Je ne veux pas lire quelque chose dans la parole de Dieu qui n'existe pas.
la manière que les gens se marient, j'ai trouvé des similarités dans ce passage. Dans Actes chapitre 27 au verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Pardon, le premier verset est le verset 13. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Et mes amis, le verset qui suit vraiment apporte des larmes dans mes yeux. Si vous comprenez la souffrance et l'anxiété qu'ils ont endurée, c'était pendant 2 semaines. Voici ce que Paul a dit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Nous allons maintenant au verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Au verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Verset 36. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Pour gagner du temps, je ne vais pas tout vous lire l'histoire, mais à la fin, ils ont été tous sauvés. C'est ici que j'ai eu la connexion des fiançailles et du mariage. Il y avait dans ce navire trois groupes de personnes. Et moi, ça ressemble aux trois groupes qui se fiancent et qui se marient. Et chaque groupe représente ou est une symbolique de la manière de chaque groupe que chaque groupe se marie. Le premier groupe était les prisonniers. Ils étaient des vrais criminels. Et ils allaient à Rome pour être possiblement exécutés. Et ils savaient qu'ils étaient criminels. Ils ne cherchaient pas à convaincre qui que ce soit qu'ils étaient des personnes bien ou saints. Ils savaient qu'ils menaient une vie contre Dieu, mais ils espéraient tout de même ne pas voir la peine de mort. Vous trouvez les gens qui rentrent dans le mariage de cette manière. Ils vivent une vie immorale, une vie contre Dieu. Et ils savent qu'ils vivent une vie impure, une vie contre Dieu. Et ils couchent, alors ils ont des relations amoureuses, des relations sexuelles avant le mariage comme ils veulent. Et ils vont s'enivrer et cette nuit, ils sont avec cette femme. L'autre nuit, ils sont avec une autre femme. J'ai eu l'occasion d'aller dans l'armée. Et il y avait quelqu'un dans l'armée qui se moquait des chrétiens. Il avait cohabité ou il avait vécu avec une femme déjà pendant 7 ans. Il dit, vous les chrétiens, comment vous pouvez vous marier à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il dit, je vis avec cette femme ou cette fille il y a déjà 7 ans. Je la connais, je sais comment elle est quand elle sort la nuit, quand elle se maquille et comment elle devient très belle. Je sais comment elle est quand elle se lève le matin et ses cheveux sont dans tous les sens et sans qu'elle ne les ait coiffés encore. Il dit, je la connais lorsque elle est dans... Je connais quand elle est contente, je connais aussi quand elle n'est pas joyeuse. Et alors, lorsque nous étions dans l'armée, il a décidé de se marier. Et il a reçu une autorisation spéciale pendant le week-end pour aller se marier et puis revenir. Il est revenu et il était aussi orgueilleux comme un coq. En voulant montrer à tout le monde que ce qu'il a fait, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et il était très fier d'avoir épousé sa femme. Et mes amis, je ne sais pas si c'était 3 ans ou 4 ans après, j'ai eu la nouvelle qu'il avait divorcé. Et ça lui a pris 7 ans pour trouver que si c'était la bonne, mais 3 ans et 4 ans après le mariage, il se rend compte que c'était pas la bonne. Et il le savait. Et c'est comme ça que il a continué à vivre une fois avec une femme après une autre. Et il le savait. Et il ne le cachait pas, il ne cachait plus cette vie à qui que ce soit. Il le vivait ouvertement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent le culte, qui mènent cette même vie. Ils changent à tout moment, en prenant plaisir dans le péché et en servant le diable. Sachant que si je meurs aujourd'hui, je suis perdu complètement et j'irai en enfer. Mais cela ne les inquiète vraiment pas. On verra lorsque nous arriverons là-bas un jour. Oh, quel insensé! De découvrir que le mal de la vie que tu as menée, tu viens découvrir ça ou te rendre compte de cela quand tu es devant le trône de Dieu ce jour-là. Lorsqu'il n'y aura plus de temps à se repentir. Oh, oh, combien insensé, quel insensé cette personne peut être. Alors, c'était là le premier groupe des gens dans le navire. Mais il y avait là aussi un deuxième groupe. Et c'était là les soldats romains. J'aimerais les comparer aux gens qui mènent une vie selon le standard de la société, une bonne vie selon la société. C'était des soldats, ils menaient leur vie, ils ne faisaient rien de mal et ils surveillaient, ils prenaient soin des captifs. Ils étaient peut-être aussi fiers d'eux-mêmes, être soldats et faisant leur devoir, même pendant qu'ils traversaient la mer, en amenant ces prisonniers, ces captifs à Rome. Ils se disaient qu'on était en train de faire une bonne œuvre. Et même dans le navire, ils étaient honorés et respectés à cause de cela. Ils étaient très contents. Vous trouvez des gens comme ça? Qu'ils mènent une bonne vie selon le standard de la société. Alors, ils sont en copinage. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais à cela? C'est comme ça que la société vit. Ils se tiennent l'un l'autre la main, ils vivent ensemble, mais ils ne couchent pas ensemble. Mais vous savez, ils peuvent se faire des bisous, ils peuvent s'embrasser, ils peuvent se prendre la main. Dis-moi, mon ami, si c'est ça la vie que tu mènes, comment sur la terre tu vas, comment sur la terre ici, tu pourrais être sûr que tu n'as pas réveillé certaines émotions et que tu es en train de te marier là, selon la volonté de Dieu. Et parmi ce groupe, on trouve très souvent les plus gros pharisiens. J'aimerais vous lire quelque chose pour vous le démontrer. Deux étudiants théologiens étaient en train de marcher dans une rue à Londres et là où ils passaient, il y avait des magasins de vêtements. Quel bon exemple cela est, l'un dit à l'autre. Et souvenez-vous qu'ils étaient des étudiants en théologie, respectés par la société. Quel bon exemple cela est, dit l'un à l'autre. Lorsqu'il a montré un costume qui était à travers la fenêtre du magasin, il y avait un signe sur les habits qui disait ce qui suit. Un peu sali et un tout petit peu réduit, le prix il est réduit. Dites-moi, mes amis, est-ce que vous n'êtes pas, dites-moi, mes amis, n'êtes-vous pas un tout petit peu souillé et aussi un tout petit peu réduit en prix? Dis-moi, sois honnête. Est-ce que cela ne s'applique pas à ta vie? Un tout petit peu souillé, sali et, grandement réduit en prix. Et il continue, dit, cela est exactement qu'on se souille en regardant à des images vulgaires. Mes amis, vous vous souillez lorsque vous regardez à des photos, des images vulgaires, des images impures, souillées. Des images souillées. Il dit, en lisant un livre souillé, un livre qui démontre vraiment une souillure avec des actes sexuels. C'est ce que a dit ce théologien, cet étudiant théologien en théologie. Au moins, lui n'était pas pharisien. Il dit, tout ce qu'on fait, on se donne un peu d'indulgence, un peu de souillure, et on se souille la pensée. Oui, je suis soldat dans le navire. Oui, je suis un homme digne. Je suis un étudiant en théologie. Mais à chaque fois, je permets toujours à mes pensées de s'évader. Et je permets à la malhonnêteté et aux pensées souillées sexuelles de parcourir ma pensée. Mais il dit, et lorsque le temps vient, et lorsque notre temps vient pour que notre caractère soit éprouvé, testé, à ce moment-là, nous sommes vraiment réduits en valeur. Mes amis, c'est ce que ces deux jeunes gens nous ont démontré aujourd'hui. Rien ne doit être réduit en valeur. Il se marie dans absolument pur. Nous ne devons pas vivre une vie chrétienne alors que nous sommes réduits en prix. Et écoutez les choix de ces paroles. Il a dit un tout petit peu souillé, juste des petites taches ici et là. Mais ça va détruire toute la robe ou le vêtement, à telle manière que on doit grandement réduire le prix du vêtement. Dieu ne permet pas dans son royaume, ne permet à personne qui va entrer dans son royaume d'être réduit en prix. Et au ciel, dans le royaume de Dieu, c'est pour tous ceux qui sont purs complètement de vêtements. Il dit, notre pureté et notre force a disparu. Écoutez un peu cela. Il dit, notre pureté et notre force ont disparu. Lorsque tu perds ta pureté, tout de suite, tu perds ta force, tu perds ta puissance en tant que chrétien. Tu n'as plus la force de te tenir contre Satan. Tu n'as plus la force de combattre les démons de l'enfer. Tu n'as plus la force de vivre une vie pieuse dans une communauté où les gens ne craignent pas Dieu. Et pendant la conférence, nous avons parlé plusieurs fois d'être des charbons ardents qui doivent sortir avec le message de Dieu. Vous savez ce que le monde dit, Charles Spurgeon a dit sur un chrétien qui a la force et qui n'est pas réduit en prière. Il dit, chaque chrétien qui vit une vie pure et une vie pieuse, il a dit que c'est un chrétien comme un charbon qui continue à brûler et qui flotte sur la mer, sur l'océan, et le feu ne s'arrête pas parce que l'océan est comme le monde ou la majorité des personnes autour de nous. Cet étudiant en théologie, il a été honnête. Oh, par la grâce de Dieu, qu'il y ait des personnes honnêtes aujourd'hui parmi nous. Notre force et notre pureté et notre puissance ont disparu. Il continue à parler. Nous faisons partie d'un stock, comme on peut dire, un stock général du magasin de ce monde. Pardon, il disait que nous sommes comme les gens qui aiment à lire beaucoup, qui aiment à lire, et nous lisons toujours des choses souillées de ce monde. Et on continue toujours à dévier du chemin de Dieu, et on continue à réduire à rien notre jeunesse devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que cela n'est pas profond? Oui, on continue toujours à dévier un tout petit peu du chemin de Dieu, et on se réduit à la valeur devant Dieu et devant les hommes. Il dit, en fait, ces petits péchés peuvent affaiblir notre caractère lorsque on rencontre vraiment des épreuves. Nous ne pouvons pas réussir l'épreuve. Il dit, au final, on va dans une vie spirituelle vaincue. Mes amis, aux yeux du monde, tu peux être un soldat noble qui prend soin des prisonniers. Mais aux yeux de Dieu, moralement, tu es vaincu. Aux yeux de Dieu, tu es vaincu moralement par Satan. Il dit, spirituellement, on est vaincu parce que on a négligé les petits péchés. On n'a pas pris au sérieux, on a négligé les petits péchés. Je Je pense vraiment que ce jeune homme, dont cet étudiant en théologie, que s'il a vraiment confessé ses péchés et qu'il s'est repenti, que Dieu l'a vraiment utilisé comme son instrument entre ses mains dans ce monde. Parce que si c'est la manière qu'il peut vraiment exposer les choses, c'est vraiment merveilleux. Donc, tous ces deux groupes étaient dans le navire. À l'apparence ou à l'extérieur, ils étaient tous dans le même navire. Mais il y avait le troisième groupe dans ce navire. Et je l'appelle groupe parce qu'il est plus qu'un homme. Et c'était un homme qui, à travers les circonstances, a pu entendre la voix de Dieu. Il a pu entendre Dieu qui lui disait « Paul, ne crains pas, personne ne... il n'y aura pas de perte en humain. » Heureux la personne qui entend la voix de Dieu lorsque le temps vient pour qu'il se marie, qu'il entende la voix de Dieu et que voilà la personne avec qui tu dois te marier. Il vivait dans un monde différent que les autres. Ils étaient tous dans le même navire, en expérimentant tous la même tempête. À l'extérieur, ils étaient tous dans la même casserole. Mais voici un homme ici, pendant que la tempête montait en force. Pendant deux semaines, 14 jours, il n'avait pas vu le soleil. Et cet homme a pu entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, mes amis, ces deux jeunes qui se sont fiancés aujourd'hui devant nous, ce sont des héros à nos yeux. Parce qu'ils ne se sont pas seulement tenus contre l'injustice, mais ils ont pu entendre la voix de Dieu. Et si toi, tu veux te marier, c'est une chose que tu dois être capable de faire, et cette chose est d'entendre la voix de Dieu. Peu importe la beauté que la fille a, ou peu importe combien le garçon est attirant, ça n'a pas d'importance que vous ayez les mêmes désirs ou que vous voyez les choses d'une manière pareille. Mais tout cela ne signifie rien. Mais une seule chose est importante. Ce que tu dois être capable d'entendre la voix de Dieu qui te parle. Ils étaient en train d'expérimenter un temps de ténèbres ou un temps sombre dans le navire. Et voilà que pendant ce temps très sombre, jaillit la lumière. Un homme qui a dit ceci. Dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Jean-Pierre et Laura. continuer à appartenir tout d'abord à ce Dieu de Paul. Et que les choses continuent et qu'un jour vous vous mariez. Et voilà le fait le plus important. C'est de continuer à appartenir à ce Dieu et continuer à le servir. Que tu continues à garder la passion de gagner des âmes pour Christ. Ne commence pas à courir après le mariage, mais continuez à vous efforcer à servir Dieu et pour glorifier Christ. Voici ce que Oncle Arlo a toujours dit, et je l'ai déjà dit plus d'une fois. Il dit, un homme pour qui, dans sa vie, Dieu est premier, qu'un homme ne cherchera pas à trouver un autre homme ou désirer avoir un autre homme que la vie d'un homme pour qui Dieu est premier. Et un homme qui a trouvé une femme, cet homme-là ne pourra pas trouver une meilleure épouse que celle-là pour qui Dieu est premier dans sa vie. Pourquoi cela est important? Pourquoi se fiancer ou se marier dans la pureté est si important? Parce que à travers les mariages, des nouvelles nations sont nées. Et pour cela, je vous demande d'être patient avec moi si je peux encore vous lire un passage dans la Bible. Dans Genèse chapitre 24. Verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. » Et voyez un peu combien Abraham a pris ça sérieusement. Donc il a amené son serviteur à jurer. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Père, mère, sœur, frère, écoutez attentivement, ceci a été écrit par Dieu. Abraham était, il a demandé à son serviteur de jurer qu'il ne prendra jamais une femme d'une nation ou des nations qui ne servait pas Dieu. Au verset 5, le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Abraham a dit, « Non, non, jamais. Ma femme ne doit pas repartir d'où je viens. Il doit être ici avec moi. » Verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Savez-vous? Savez-vous où les jeunes chrétiens perdent leur feu alors qu'ils sont supposés être ce charbon brûlant, ardent, qui est sur la mer et qui sont en train de flotter? C'est lorsqu'ils se marient à la mauvaise personne. Ils ne marient pas une vie, une personne pour qui la vie ou Dieu est premier. Il se marie pas à quelqu'un qui sert Dieu. Ils apportent dans la famille quelqu'un qui est tiède. Oui, je sais qu'elle va à l'église. Oui, je sais qu'elle est attirante. Mais si elle est comme ces deux étudiants en théologie, elle va apporter la tiédeur dans ta vie. Et tu vas perdre le feu de Dieu qui est supposé brûler dans ton cœur. Au verset 8. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Est-ce que c'était là une chose simple et humaine qu'ils étaient en train de discuter? Fils, tomber amoureux de l'un et l'autre, se fiancer et se marier. C'était quelque chose qui était chargé d'une signification spirituelle. Et Dieu était dedans. Parce que de ce mariage, Dieu a pu dire que Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous vous rendez compte combien important Et votre vos fiançailles et votre mariage. Et que ça peut entraîner au bâtissement d'une nation ou à la destruction d'une nation. Et Abraham a dit à son serviteur, je veux que tu prennes une épouse pour mon fils parmi mon peuple et non dans les nations étrangères. Je vais terminer avec ceci. Revenons à Paul dans le navire. Nous lisons que lorsque le navire a échoué sur le rocher, certains prisonniers voulaient s'enfuir avec des barques. Paul a dit au capitaine que s'il ne reste pas avec nous, nous ne serons pas sauvés. Peu importe le groupe que tu appartiens, que tu appartiennes au groupe des prisonniers et que tu vis seulement selon tes désirs, ton plaisir, ou encore selon le groupe des soldats, comme les pharisiens. Mais ici, nous avons une offre, une possibilité pour toi d'être sauvé. Ces prisonniers n'ont rien fait pour que Dieu les sauve, mais simplement parce qu'ils sont restés avec Paul, ils ont été sauvés. Nous avons notre Paul. Il y a 2000 ans en arrière, il a été cloué à la croix pour nous. Il a été battu et il a saigné. Peu importe combien tu es méchant, tu peux être sauvé par lui. Mais voici la condition. Tu dois rester avec lui, pareil que ses prisonniers sont restés avec Paul. Personne d'entre nous ne sait combien nous avons encore à vivre, pour combien de temps. Peut-être c'est la dernière occasion que Dieu te donne. Mais il veut te la donner gratuitement. Et tu peux échapper à l'enfer pour toujours. Et c'est gratuit. En venant à notre Paul, à notre Seigneur Jésus, avec tes péchés. Alors, dis tes péchés par nom, un après l'autre. Et il va te purifier de tes péchés. Même quand bien même tu ne le mérites pas. Comme pareil qu'avec moi, je ne le mérite pas. Tu peux être sauvé un jour. Et qui sait, peut-être même Dieu veut t'utiliser. C'est pourquoi je remercie ce jeune couple. Et même si vous ne le comprenez pas, mais vos fiançailles peuvent conduire au salut des gens. Dites merci au Seigneur pour cela et continuez et restez fidèles au Seigneur. Prions ensemble. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet exemple, pour le message du salut, pour l'appel à la repentance. Merci, Seigneur, pour ces jeunes gens. Bénis-les du fait qu'ils sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Puisses-tu continuer à les utiliser dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.